Chapitre 59. Une forêt de barres d'immeubles était coincée entre le périphérique au niveau de la porte de Clignancourt et les voies de chemin de fer, si bien que de leurs fenêtres, les habitants voyaient les passagers des trains d'un côté et ceux des voitures bloquées dans les embouteillages de l'autre. Un quotidien rythmé par des bruits incessants de freins crissants, de roulis de wagons et de coups de klaxon. Avec pour seul rempart entre les blocs et les rails, des parkings bétonnés et une pauvre rangée d'arbres sans feuilles. En cette fin de journée, pas loin de la gare du Nord, au milieu de nulle part, c'était un paysage de désolation et de misère qui s'abîmait dans l'obscurité froide et monotone. Garé le long d'un trottoir à proximité d'une cabine téléphonique en sale état, Santucci, Charcot et Amandier attendaient une équipe de la brigade d'intervention. Le corps s'était allé vérifier lui-même sur les boîtes aux lettres dans le hall du bâtiment qu'il ciblait. David Merlin logeait dans l'appartement numéro 48, au quatrième étage. « Nerveux, Charcot ?» lança-t-il en se retournant dans l'habitacle. « Difficile de ne pas l'être. La première enquête que tu lèves, tu t'en souviens toute ta vie. J'en doute pas une seconde, d'autant que j'ai quand même failli y rester. Peut-être qu'ils te fileront une médaille un jour. Ne compte pas là-dessus, » répliqua Serge avec lassitude. « C'est des conneries. Tout ce qu'on te donnera, c'est le droit de continuer à risquer ta peau jusqu'au moment où tu foireras. Là, on oubliera tous tes bons et loyaux services et on te rattrapera pas. Regarde Titi. » Les renforts débarquèrent, mettant fin à l'ambiance électrique qui crépitait dans le véhicule. 5 gars en tenue, lourdement armés, boucliers, sarcophages et béliers portatifs en main. Santucci et ses collègues les rejoignirent aussitôt. Après un rapide échange d'informations, une file de silhouettes s'engagea en courant dans la cage d'escalier du numéro 48, la BRI devant, la crime derrière. Pendant ce temps, l'un des policiers faisait le guet au rez-de-chaussée. Partout, ça sentait le shit à plein nez. Des canettes vides et des mégots traînaient sur les paliers aux murs tagués ou sur les rebords des lucarnes grillagées. Charcot fermait la marche, traversé par un sentiment ambivalent. Pas mécontent qu'on puisse en finir avec le méticuleux, mais insatisfait de la façon dont ils étaient parvenus jusqu'à lui, par cette piste des serruriers. La vérité, c'est qu'ils allaient arrêter un assassin dont aucun d'entre eux n'était capable de déterminer avec certitude le mobile. Autrement dit, ni Franck ni ses coéquipiers ne savaient à quel genre d'individu ils avaient affaire. Froissement de nylon, couinement de semelles, gestes vifs, murmures. Les flics cagoulés se positionnèrent en colonne devant une porte rouge en tout point identique à ses voisines, fusils et lampes torches brandies. Il fallut plus de 10 coups de bélier pour venir à bout du système de fermeture renforcé par une barre d'acier. Puis ils se déversèrent dans l'appartement en criant. La crime avait été priée de patienter en retrait à l'extérieur. Ils entendirent des « bouge pas !» à plusieurs reprises, ainsi que des « fausses alertes !» En moins de 30 secondes, la brigade d'intervention avait sécurisé toutes les pièces. Personne. La tension redescendit d'un cran. Les hommes se tapèrent mutuellement sur l'épaule. Leur mission était déjà terminée, mais une expression indéfinissable se lisait sur leur visage quand ils regagnèrent l'entrée. Le chef de colonne s'adressa à Santucci. « On s'installe en bas une demi-heure, au cas où il reviendrait. Après, vous prenez le relais, on vous laisse gérer le truc comme des grands. Vous ne vous êtes pas trompé de cible, ce mec a une case en moins. » « Je pige pas, il y avait vraiment personne là-dedans. Pourquoi vous avez gueulé « bouge pas » ?»« Vous allez vite comprendre. »